Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 7 mars 2024, en direct des studios de Choc.ca à l'UQAM, au centre-ville de Montréal. Notre émission qui traite, comme à chaque deux semaines, des enjeux d'immigration, de racisme, de frontières, de droits humains, d'abus de toutes sortes et de méchants gros pas gentils aussi. Évidemment, c'est Mathieu au micro en compagnie de Marie-Ève. Bonsoir Marie-Ève.
Salut Mathieu.
Salut. Simon est avec nous aussi.
Salut, bonjour.
Bonjour. Donc je vais animer ce soir. Mes collègues vont passer à tour de rôle au micro et à la technique pour vous présenter différents sujets comme les actualités autochtones, un agenda antiraciste. On va avoir aussi des sujets sur la Palestine, Israël, évidemment un peu incontournable. On va parler des Canaries, de Mayotte, d'Algérie, de Russie, d'Ukraine. Et il va y avoir des pièces de musique de Rid of Me, aussi de HK et aussi de Squid. Donc, vous avez le programme presque complet entre les oreilles. Donc, bienvenue à cette émission. Je vous rappelle que nous sommes aussi diffusés sur les ondes de Radio Victoria les mercredis et dimanches en direct sur leurs ondes et que vous pouvez nous rejoindre aussi sur notre site internet apatridesanonymes.info et sur notre page sur le site de Choc pour écouter tous les balados à choc.ca apatrides anonymes. Donc, nous allons débuter avec quelques notes de musique et ensuite, on commence. Je vais y aller avec donc mon premier bloc, si ça vous dérange pas. Je vais vous parler de Russie. On n'en parle pas souvent dans le cadre des migrants, mais un bon reportage, article de RFI qui date de la mi-février, qui s'appelle « En Russie, les migrants sous pression pour combattre en Ukraine ». Je vous en lis des extraits. « Pour garnir les rangs de son armée, Moscou continue de recruter chaque mois des dizaines de milliers d'hommes, toujours présentés comme des volontaires. Reste que pour remplir les quotas fixés, la police n'hésite pas à recourir à tous les moyens, et notamment à intimider une population vulnérable, c'est-à-dire les quelques 6 millions de migrants d'Asie centrale présents sur son sol. Un Kirghiz témoigne, j'ouvre les guillemets, « Dès les premiers jours de la mobilisation partielle en 2022, » il entend les premières histoires de rafles de migrants par la police. On réouvre les guillemets. À la mosquée, à la prière du vendredi, ils peuvent t'attraper, te tordre le bras et t'amener au commissariat. Ils vont partout où les migrants se rassemblent, les stations de métro, les chantiers, les appartements indiqués par les voisins. À tout le monde, ils demandent de signer pour l'armée, mais à ceux qui n'ont pas de papiers légaux ou encore ceux qui vivent d'argent facile comme le commerce de la drogue, ils mettent tout particulièrement la pression. Ils leur donnent le choix, soit tu vas rejoindre l'armée, soit tu vas pourrir en prison. En Russie, la colère des femmes aux mères de mobilisés qui veulent leur retour du front peut désormais s'exprimer discrètement, bien encadrée, un petit peu plus qu'au début, mais la détresse des familles de migrants enrôlés ou sur le point de l'être rencontre un écho bien plus faible dans la population en Russie. Encore plus en Asie centrale, dans les familles de ceux qui jusqu'ici vidaient les poubelles, déneigeaient les rues et les toits ou trimaient sur les chantiers ou dans les cuisines des restaurants en Russie. Les familles de soldats décédés détaillent par ailleurs un même scénario qui suggère que les migrants seraient le plus souvent envoyés immédiatement en première ligne, un enrôlement, un entraînement rapide et un décès express.
Ben oui, la chair à canon. Hein?
Exactement. En septembre 2022, quand il a décidé de la mobilisation partielle, Poutine a aussi signé un décret, un accès simplifié à la citoyenneté russe pour avoir signé un contrat d'au moins un an et servi dans la zone de l'opération spéciale, c'est-à-dire l'Ukraine, au moins 6 mois. Par contre, les autorités des ex-républiques d'Union soviétique sont très opposées à l'implication de leurs citoyens dans la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan ont ainsi chacun adopté des lois interdisant à leurs ressortissants de s'enrôler dans une armée étrangère. Mmh. Au Kirghizistan, braver cette loi, c'est risquer 10 ans derrière les barreaux. Le pays interdit aussi d'aller dans les territoires de l'Ukraine annexés par la Russie en 2022. La Russie communique régulièrement sur les chiffres de combattants recrutés, se félicitant de l'afflux de volontaires. Le ministre de la Défense russe a ainsi déclaré qu'en 2023, environ 490 000 personnes sont entrées sous contrat ou sont devenues volontaires dans l'armée russe. Le ministère de la Défense prévoit aussi d'augmenter le nombre de soldats contractuels à 740 000 en 2024 et de porter à terme la taille totale des effectifs combattants à 1,5 million de soldats. Et en terminant du côté de l'Ukraine, plus de 14 millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine durant les deux années écoulées depuis l'invasion russe en 2022, dont près de 6,5 millions d'entre elles sont encore réfugiées à l'étranger, a indiqué l'ONU le 22 février, la date des 2 ans de la guerre.
Ouais.
Ces chiffres représentent au total près d'un tiers de la population ukrainienne. Aux personnes réfugiées à l'étranger s'ajoutent quelques 3,7 millions d'Ukrainiens restés déplacés dans leur propre pays. Ouais. À ce jour, plus de 4,5 millions de personnes sont rentrées chez elles depuis l'étranger ou après avoir été déplacées en Ukraine. L'Organisation internationale pour les migrations dit avoir porté assistance à quelques 6,5 millions d'Ukrainiens dans leur pays, mais aussi aux réfugiés accueillis dans 11 pays d'Europe de l'Est. L'OIM précise avoir reçu, durant les deux premières années de la guerre, 957 millions de dollars américains de dons. Mais les Nations unies estiment avoir besoin de 4,2 milliards cette année seulement pour fournir l'aide humanitaire nécessaire en Ukraine, mais aussi aux réfugiés dans les pays aux alentours. Donc, petite mise à jour.
On est loin du compte.
Exactement. Donc, je passais la parole à Marie-Ève. On est rendu déjà à 7 minutes d'émission, je vous rappelle tout le monde. Donc, tu vas nous parler de, on n'est pas très loin, de l'Union européenne.
Oui, je vous parle pas de différents pays de l'Union européenne, mais vraiment de l'Union.
De l'Union, comme entité.
Comme entité. Puis je commence en force à part de ça avec une réforme que, si elle est approuvée formellement par le Parlement et le Conseil européen, ben, elle va créer un dangereux précédent. Il s'agit d'une révision du Code Schengen des frontières qui va permettre à un État membre de, et je cite, transférer les ressortissants de pays tiers appréhendés dans la zone frontalière et séjournant illégalement sur son territoire vers l'État membre d'où ils sont directement arrivés. Un exemple.
Oui.
À la frontière franco-italienne, avec cette nouvelle mesure-là, ben une personne qui se trouve dans la zone frontalière va pouvoir être arrêtée si les autorités françaises, par exemple, soupçonnent que cette personne-là est en situation irrégulière en Italie.
OK.
Donc, ce qu'on fait, finalement, c'est qu'on légalise les pushbacks. Une pratique qui est pourtant dénoncée là, depuis longtemps, mais puis la dernière fois, c'était pas plus tard qu'en septembre 2023 par la Cour de justice de l'Union européenne. Dans la version actuelle du Code Schengen, ce genre de contrôle-là est autorisé seulement en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État. Et la réintroduction d'un contrôle aux frontières intérieures est d'une période de 6 mois maximum à ce moment-là. Mm-hmm. Ces périodes sont ensuite renouvelables sur une durée maximale de 2 ans. Donc, la réforme, elle vient réaffirmer le caractère exceptionnel de ces contrôles, mais elle ajoute aussi la possibilité de les prolonger d'une année supplémentaire. Le nouveau code encadre d'un côté mieux la pratique, mais l'allonge en mettant la possibilité sur 3 ans.
Mm-hmm.
Ce que les ONG craignent le plus, c'est une systématisation des contrôles aux faciès, parce que c'est clair que les contrôles aléatoires des documents vont dépendre des décisions arbitraires de la police quant à savoir qui ressemble à une personne sans papier.
Mm-hmm.
Elles craignent aussi qu'il y ait une intensification du recours aux technologies de surveillance, évidemment. Les grandes lignes de la réforme ont été annoncées dans un communiqué de presse, mais le texte détaillé n'a pas encore été rendu public. Donc, il y a plusieurs questions qui demeurent en suspens. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir un droit de recours pour les personnes appréhendées? Combien de temps ces personnes vont pouvoir être détenues en attendant leur refoulement? Et surtout, est-ce qu'il va y avoir des exceptions pour les catégories protégées, c'est-à-dire les mineurs non accompagnés, les femmes avec enfants ou encore les demandeurs d'asile qui ont tous le droit là, imprescriptible de déposer une demande d'asile partout dans l'Union européenne? Ça, c'était pour les frontières intérieures, mais pour les frontières extérieures, la réforme prévoit des mesures face aux tentatives d'États tiers d'instrumentaliser les personnes migrantes dans un but politique de déstabilisation. Exemple, comme le Bélarus ou encore la Russie ont été accusés par l'Union européenne de le faire en 2023. Mais là, le concept d'instrumentalisation, il est inquiétant et problématique parce qu'il associe la migration à une menace sécuritaire. Mais aussi, on se demande ben qui va rentrer dans cette définition-là d'instrumentalisation. Est-ce que, par exemple, ça pourrait viser les missions de sauvetage des personnes exilées qui sont menées par des ONG?
Oui, qui ramènent des centaines de personnes.
Exactement.
Ouais, ouais.
Parlant des ONG de sauvetage, dans un rapport publié il y a 2 semaines, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic, appelle les États membres à mettre fin à la répression envers les ONG et les individus qui défendent les droits des personnes migrantes. Parce qu'on vous en a parlé souvent, là, il y a une tendance croissante à harceler, intimider et même criminaliser là, les personnes et les groupes qui aident les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants. La commissaire demande, entre autres, aux États de réformer les lois politiques et pratiques qui sont susceptibles d'empêcher ou d'entraver leurs activités. En particulier, je cite, « veiller à ce que les lois sur le trafic illicite de migrants ou l'aide à l'entrée, transit ou séjour irrégulier empêchent clairement d'incriminer les défenseurs des droits humains. Mmh. Elle dit même que les représentants du gouvernement et les élus ne devraient pas tenir des propos désobligeants, incendiaires ou stigmatisants à leur égard. Donc, ça va assez loin. Après, bon, il va falloir voir
ça change si quelque c'est chose, suivi. Hein?
Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et je termine avec, parce que comme tout est dans tout, avec une nouvelle sur l'ancien patron de Frontex qui se lance en politique.
Notre meilleur, hein?
Ben oui, et devinez pour quel parti Fabrice Le Guéry va se présenter aux élections européennes de juin prochain.
Il est français ou italien, lui?
Et Le Guéry est français.
Ah ouais, pour le RN.
Eh oui! Je le cite, le RN possède un plan concret et la capacité de le réaliser. Nous sommes déterminés à combattre la submersion migratoire que la Commission européenne et les eurocrates ne considèrent pas comme un problème, mais plutôt comme un projet. Je peux en témoigner. Imaginez, ça, c'est l'ancien patron de Frontex. Donc, c'est pas très surprenant qu'il se présente pour le Rassemblement national parce qu'il appliquait déjà les politiques que le RN recommande en matière d'immigration, tu sais. Je rappelle que pendant son mandat à Frontex, il avait été accusé, entre autres, d'avoir fermé les yeux sur les refoulements de migrants en mer Égée par la Grèce. Sous son mandat aussi, Frontex était dans la tourmente en Méditerranée aussi, pas juste en mer Égée. Selon plusieurs ONG collectifs, l'agence utilisait ses avions de reconnaissance en Méditerranée pour envoyer des migrants en Libye. L'agence alertait seulement les gardes-côtes libyens quand elle repérait une embarcation en détresse et elle omettait d'avertir les navires humanitaires ou commerciaux qui étaient présents dans la zone. Ces pratiques-là perdurent d'ailleurs là, malgré le départ de Fabrice Le Guéry. Il y a une enquête du média allemand Der Spiegel qui a été publiée début février qui montre que l'agence partage presque chaque fois les localisations des canaux de migrants en détresse en Méditerranée avec les gardes-côtes libyens.
Bon, ben un grand champion. Écoute, je vais te demander la réforme de l'espace Schengen, comment ça s'articule avec le nouveau pacte migratoire en Europe?
Ils n'en parlaient pas, en tout cas, dans les articles que j'ai lus.
Il y a des choses qui s'entrecroisent, on dirait. Hein?
Puis de toute façon, en plus, ben là, elle n'est pas encore officiellement adoptée, là.
Mais, ouais, c'est vrai, ouais.
Les termes de l'accord ont été adoptés, mais il faut que ce soit ratifié.
Parfait. Ben, merci, Marie-Ève. Nous sommes dans un sous-marin aux apatrides anonymes.
Russe
nucléaire, oui. Donc, Algérie, petite mise à jour, ça a fait, je vais vous le lire, vous allez comprendre, depuis 5 ans et le début du mouvement de protestation du Irak, ça a fait 5 ans il y a 2 semaines, les défenseurs des droits humains et les activistes font face à une répression de grande ampleur, les poussant parfois à l'exil. Il y a 5 ans, le 22 février 2019, la population en Algérie s'est mobilisée de manière spontanée et pacifique pour exiger un changement démocratique. Depuis, le harcèlement policier et l'intimidation des activistes sont incessants. Les forces de sécurité les surveillent et les menacent, créant un climat de terreur. Dans certains cas, des activistes sont même confrontés à des violences physiques, voire à de la torture en prison. L'instrumentalisation de la justice par la police politique en Algérie constitue la clé de voûte de cette répression. Le pouvoir judiciaire s'appuie régulièrement sur des dispositions légales ambiguës pour soumettre les militants des droits humains à des procès injustes et les maintenir en détention. L'organisation et la participation à des rassemblements pacifiques demeurent aussi un défi majeur pour les activistes en Algérie. Les obstacles bureaucratiques pour obtenir des autorisations à manifester, associés à la présence excessive de la police lors des rassemblements rarement approuvés, portent atteinte à la liberté de réunion pacifique. Actuellement, toute forme de manifestation pacifique opposée au régime militaire est interdite. Preuve en est, les moindres tentatives de sortie militante sont réprimées et leurs meneurs sont arrêtés. À ce jour, les prisons algériennes comptent des dizaines de détenus d'opinion depuis plus que 5 ans, mais surtout dans les 5 dernières années. Par ailleurs, les activistes algériens ont été davantage contraints à fuir leur pays. Il existe des rapports alarmants mettant en lumière le manque de protection des réfugiés et demandeurs d'asile algériens, y compris en Tunisie, qui font constamment face à la menace d'une détention arbitraire et d'un renvoi forcé vers les dangers qu'ils et elles ont fui en Algérie. Les militants et les organisations de la diaspora vivent au rythme des abus de la répression injuste et injustifiée des rassemblements et marches qu'elles organisent en France et plus précisément à Paris. C'est ainsi que les rassemblements du dimanche à la place de la République sont réprimés par la préfecture de police de Paris qui a pris des arrêtés d'interdiction. Bien que ces décisions aient été censurées en majorité par le juge des référés administratifs, l'administration persiste à réduire au silence les manifestations et à éprouver d'autres techniques, dont une inédite. Des arrêtés ont été pris pour interdire de dépasser 81 décibels à 10 mètres du rassemblement, ce qui correspond à une personne parlant fort sans micro.
Ben voyons.
Les verbalisations, donc les PV, pleuvent contre les organisateurs organisatrices. Des violences ont également été exercées par des policiers contre les organisateurs de ces rassemblements. Leur matériel a été confisqué plusieurs fois et des poursuites judiciaires ont été introduites devant le tribunal de police de Paris contre les militants et les participants. Dans ce contexte délétère des deux côtés de la Méditerranée, à l'approche de l'élection présidentielle prévue en décembre 2024 en Algérie et en l'absence de toute garantie pour superviser le scrutin, la persistance au recours à un arsenal juridique liberticide, ça constitue une épée de Damoclès au-dessus de la tête des acteurs de l'espace civique algérien et ça s'améliore pas donc dans les dernières semaines, derniers mois. Donc, c'est ça un peu, je voulais mettre à jour, le lien avec la France aussi, qu'on connaît moins, la répression.
Ouais, c'est ça, non, je savais pas que qu'il était spécifiquement la cible de... que militante algérienne
depuis
était
à peu près un an ou deux. Ça doit être que les relations entre l'Algérie et la France au niveau économique vont mieux. Donc, voilà. Alors, on va donc aller en musique avec une première pièce. Le groupe s'appelle Squid. La pièce s'appelle Devil's Den. Leur album Au Monolith est sorti en juin 2023. C'est un groupe de Londres qui fait un genre de post-punk indie alternatif. On les a vus les trois ensemble au Club Soda il y a quelques semaines.
C'était très bon.
Avec, en première partie, Simon, c'était?
Water from your eyes.
Water from your eyes, qu'on avait fait jouer en décembre ou en janvier dernier. Donc, voilà, Squid, on y va avec la pièce Devil's Den.
In the devils.
Squid, la pièce Devil's Den. Très bonne chanson, courte mais efficace. On poursuit directement avec Simon qui m'a rejoint dans le studio principal. On va parler de Mayotte.
Ben oui, cet archipel, ce département français d'outre-mer, des îles dans l'océan Indien. On en a parlé quelques fois, mais pour je vais résumer quand même, il y a eu des rafles de l'État français pour détruire les habitations de 30 % des 300 000 personnes qui vivent sur les îles et qui sont en situation irrégulière ou en attente de statut, pour les expulser vers, non pas vers le reste de l'archipel des Comores, qui est un pays indépendant qui ne veut pas être complice de la déportation de masse française, mais surtout vers l'île de la Réunion, vers le Mozambique et certains pays continentaux de l'Afrique. L'opération Wambushu, opération Darmanin, dans un climat de violence assez intense à partir d'avril 2023, et ça persiste plus ou moins encore aujourd'hui. Donc, Gérald Darmanin, notre ministre français de l'Intérieur, s'est rendu à Mayotte début février, et non content d'avoir réussi à expulser la quasi-totalité des 30 000 personnes sans statut, il a lancé une opération Wambushu 2, avec comme prétexte la sécurité des citoyens français qui seraient toujours menacés, alors qu'au contraire, tous les rapports des humanitaires, des ONG sur place dénoncent plutôt l'intimidation et la violence que subissent non pas les citoyens français, mais les exilés, des violences perpétrées par les citoyens français, souvent regroupés en sorte de meutes qui parfois attaquent et blessent en pleine rue les migrants, qui vont détruire, brûler les quelques rares campements qui persistent encore aujourd'hui, surtout à Mamoudzou, la capitale, où on a même vandalisé et cadenassé les locaux de certaines associations qui aident les migrants, migrants qui seraient entre quelques centaines et 2000 aujourd'hui. Migrants qui seraient qui sont dans des camps de fortune parce que la seule aide de l'État, c'est 30 euros par mois par adulte et 10 euros par enfant pour les quelques chanceux qui réussissent à s'inscrire.
Et une vieille tante.
Et une vieille... Ben, même pas toujours. Même pas, des fois, elle est brûlée par les citoyens français. Donc,
les
le
nationaux.
Reste, c'est
ouais,
ça. Nourriture, ouais. Médicaments assurés tant bien que mal par des associations financées par des dons privés. Le profil moyen des migrants a un peu changé depuis un an. Ils sont composés actuellement des quelques Comoriens qui ont échappé à la première opération Wambushu. Les autres, en général, arrivés plus récemment, viennent principalement de Somalie, Soudan, Sud-Soudan, Congo, Tanzanie et Mozambique.
C'est loin. Ouais.
De toute façon, c'est un archipel en plein milieu de l'océan. Sur une carte, ça n'a pas l'air si loin de l'Afrique, mais ça l'est quand même.
Ouais.
Donc voilà, le gouvernement Macron-Attal, avec les larbins des instances locales et les nominations politiques des dernières semaines, comme la vis-à-vis de Darmanin, Marie Guévenoux, toute nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, une dame très bien et très blanche qui vient d'Amiens, dans le nord-est de la France, ou encore le tout nouveau préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, un autre blanc de blanc immaculé, né à Paris, ex-sous-préfet de Dunkerque. Le gouvernement français, on voit qu'ils ont
rapport... Il connaît les migrants, là, quand même.
Oui, ouais, il connaît ça, les archipels dans l'océan Indien. Donc, le gouvernement français cède aux pressions des lobbies les plus extrémistes, qu'ils disent clairement, les Africains, on n'en veut pas. Et même si leur discours est ouvertement xénophobe, il n'y a rien qui prouve qu'il soit majoritaire, le nettoyage va recommencer de plus belle sous prétexte de délinquance et d'insalubrité. Le plus ironique ou triste, c'est que plusieurs des manifestants anti-africains les plus virulents sont eux-mêmes d'origine africaine subsaharienne, mais installés là parfois de peut-être une génération ou plusieurs générations.
Ouais, ouais, ouais.
Donc l'État va mener des opérations coup de poing, c'est le choix des mots de Darmanin dans un vidéo sur X. On va faire venir encore plus de gendarmes de l'Hexagone vers Mayotte. On va faire sortir les migrants de leur case pour les détruire aussitôt, souvent en pleine nuit, comme le veut la pratique habituelle. Ce qu'on a appelé le décasage de Bangas.
Ah oui, hein?
On promet rien de moins qu'un rideau de fer autour de l'archipel. Rideau de fer, autre terme très nuancé utilisé par Darmanin.
Ouais.
Rideau de fer en pleine mer, bravo. Et évidemment, on aura toutes sortes de nouvelles technologies de surveillance, un peu comme on en voit dans la Méditerranée avec Frontex. Peu avant la visite de Darmanin, il y avait un stade désaffecté de la capitale, le stade de Cavigny, qui servait d'abri à 350 migrants. Ben, le nouveau préfet, notre très chic Dunkerquois, François-Xavier Bieuville, 24 heures après sa nomination, il ordonnait le démantèlement du camp. Et ça s'est passé vraiment de manière barbare. Ça avait été précédé par la visite de membres des collectifs anti-migrants qui étaient venus au stade avec des chaînes et des cadenas qu'ils avaient installés sur toutes les issues du stade, sauf une, en donnant aux migrants un ultimatum très court et en leur disant « Vous empruntez cette dernière porte et à telle heure, on la cadenasse aussi. Vous serez donc enfermés, plus d'eau, plus de nourriture. » Bref, comme au Moyen Âge où on cherchait à affamer les populations des villes assiégées.
Mm-hmm.
Beaucoup de migrants se sont effectivement retrouvés enfermés et devaient escalader des murs pour s'approvisionner pour que finalement la police viennent débloquer les issues pour expulser les migrants de force, ceux qui restaient encore sur place, et en même temps, ben, la machinerie entrait dans le stade pour commencer à tout détruire. Donc, cet acte très grave de séquestration de masse reste aujourd'hui impuni, et c'est à ces sadiques-là que le gouvernement français obéit. En plus du siège du stade et des agressions de toutes sortes, les milices civiles ont aussi érigé des barrages un peu partout dans autour et dans la capitale. Pour non seulement contrôler les migrants, on teste leur accent parce qu'on ne sait pas visuellement si c'est
non,
des citoyens français.
Il y a des personnes métissées là-bas.
Donc, à l'accent, on les agresse. Et les barrages servent aussi à empêcher les humanitaires de distribuer vivre aux
vers. Ça, c'est arrivé quand, ça?
C'est dans la dernière semaine, tout
ah,
ça.
Ah oui, on n'a pas entendu parler du tout. Hein? Non.
Donc voilà, je vais vous inviter à vous informer davantage. Il y a un bon texte de la CIMAD qui s'appelle « Soigner, séparer, précariser », un rapport d'observation sur les exilés qui ont déjà été expulsés vers l'île de la Réunion.
Okay.
Qui va donner une bonne idée des prochaines opérations de déportation.
Merci. Donc le RN est au pouvoir à Mayotte, hein? Je comprends bien, c'est ça? Hein?
Ben non, c'est la République en marche.
Oui, voilà. Oh, quelques notes de musique et on revient souvent avec une autre île, un autre archipel, les Canaries.
Oui.
Sous-marin, nous sommes passés au vaisseau spatial.
Ah non, non, on était toujours en sous-marin. On a passé par le Cap Horn, puis on est allé vers les...
Dans l'Atlantique, aux Canaries. Donc, Simon, ça brasse là aussi, hein?
Ben oui, je vais pas parler tant de brassage, mais plus d'accords bilatéraux. Il y en a beaucoup depuis plusieurs années entre les pays du Nord qui donnent de l'argent aux pays du Sud. Turquie, Maroc, Tunisie, Rwanda, ça a plus ou moins bien marché. Mm-hmm, là, c'est l'Union européenne qui, sous la pression de Madrid... vient ajouter un peu comme une pierre à son arsenal d'entente avec un accord de 200 millions d'euros avec la Mauritanie.
Ah ben oui, oui. Ben
pour
oui.
qu'elle intercepte plus d'embarcations de migrants en partance de ses côtes à destination des îles Canaries. Il y a des officiels espagnols qui affirment, sans pouvoir le démontrer, que Nouakchott, la capitale mauritanienne, ferait exprès de laisser partir un maximum d'embarcations vers les Canaries pour pouvoir obtenir plus d'argent.
Ben oui.
Le gouvernement mauritanien ayant peut-être été inspiré par le milliard récemment octroyé à la Tunisie.
Oui.
En tout cas, c'est vrai qu'on laisse les canaux partir en rêvant de milliards, ben ça marche. En plus des 200 millions octroyés par Bruxelles, Madrid a ajouté un autre 200 millions d'euros pour aider la Mauritanie dans quelque chose qui n'a aucun rapport, petite question quiz, pour une filière...
Oh, je ne sais pas, les hydrocarbures.
L'hydrogène dit vert.
Je n'étais pas loin,
okay. Oui, tu étais très proche, on est dans l'énergétique. S'ils veulent que ça fonctionne, en tout cas, je ne recommande pas d'engager Fitzgibbon comme consultant. Parce
ni
que
Nordvolt.
Ni Nordvolt, non. Je vais situer la Mauritanie pour les gens qui sont poches en géographie. On est sur la côte atlantique, entre le Sénégal et la Sahara occidentale. En mer, entre les points les plus rapprochés, c'est à peu près 1000 km des îles Canaries, donc ça reste une traversée très périlleuse, un peu plus courte qu'à partir du Sénégal, mais tout aussi dangereuse, surtout la nuit. On voit rien, c'est froid, il faut calculer entre 4 et 6 jours si on part pas à la dérive ou si on chavire pas.
Mm-hmm.
Les migrants arrivent presque toujours affamés, déshydratés, en hypothermie et traumatisés. En 2023, je crois qu'on avait mentionné le chiffre, mais il y avait eu au moins 400 personnes qui étaient mortes sur cette route maritime.
Mm-hmm.
Autre statistique que j'ai apprise en épluchant nos articles de presse, la Mauritanie est maintenant l'endroit d'où embarquent le plus de migrants pour les îles Canaries.
Okay, ouais.
Quelques milliers chaque mois, de l'ordre de 83% pour tout le monde qui cherche à rejoindre les îles Canaries. C'est une tendance qui est quand même récente, mais qui est en forte augmentation. Actuellement, il y aurait, paraît-il, des dizaines de milliers de migrants en Mauritanie en attente d'embarquer pour les îles Canaries. Pour revenir aux ententes bilatérales, il y a donc un accord de 200 millions avec l'Espagne sur l'hydrogène d'hiver, un nouvel accord migratoire avec Bruxelles de 200 millions aussi, en plus des accords migratoires de moindre importance avec Madrid qui existaient déjà, dont un de 10 millions sur la formation et l'équipement armement de garde-côtes mauritaniens, que Nouakchott souhaite considérablement bonifier, donc autre ronde de négociations à venir entre les deux capitales. Du côté mauritanien, on insiste sur le fait qu'on ne veut pas d'accord à la source rwandaise pour l'hébergement en sous-traitance des demandeurs d'asile ou pour leur installation permanente, parce que les capitales européennes ont tendance à vouloir emprunter cette direction avec leurs partenaires, entre guillemets, du Sud. Ce qui nous laisse supposer que l'Espagne a probablement tenté sa chance pour obtenir ce genre d'entente-là, mais la Mauritanie dit non, pour l'instant du moins. Mais entre-temps, les migrations continuent. Plus tôt cette semaine, les gardes-côtes marocains ont intercepté au large du Sahara occidental une pirogue avec 27 migrants subsahariens à bord, tous vivants, mais hier, un bateau un peu plus grand en partance de Mauritanie a réussi à accoster aux îles Canaries, 64 survivants, mais il y avait 4 migrants décédés à bord.
À bord, ouais.
Ouais, ben ouais, oui. Oui, qui n'ont pas,
pas survécu,
qui n'ont pas jeté par-dessus bord, là. Donc, ben voilà pour les actualités.
C'est vraiment récent, c'est hier, tu disais, donc...
Oui, exactement.
Ben, merci Simon pour cette mise à jour sur les archipels. Ouais. Moi, je vais rester un peu dans le entre les deux, ou en tout cas vers le nord un peu. On va parler de Litanie, mais rapidement de Ceuta. Parce qu'il se passe des choses aussi assez dramatiques. En un peu plus de deux jours, à la mi-février, 57 exilés ont traversé à la nage dans une mer démontée les quelques centaines de mètres qui séparent le Maroc de la plage de Benzou, au nord-ouest de l'enclave espagnole de Ceuta. La tempête Carlota qui a frappé le détroit de Gibraltar cette fin de semaine-là, avec des rafales à plus de 100 km/h, n'a donc pas entamé la détermination des migrants plus nombreux depuis le 1er février dernier. Depuis le début de l'année, 144 cadavres ont atteint Ceuta à la nage, donc ont atteint vivant la Ceuta à la nage. Cette même plage avait déjà fait la une de l'actualité. Les migrants s'y étaient rendus en quelques marocaines de l'Espagne. Les courants dans la zone et la présence de rochers rendent cette traversée très dangereuse. D'ailleurs, début février, Bakar, un jeune Marocain, 17 ans, s'est noyé à cet endroit. Si vous voulez voir des images de ce que ça a l'air, les vagues... à Ceuta, il y a des vidéos qui circulent beaucoup sur les jeunes Marocains qui rejoignent Ceuta à la nage. Pendant ce temps-là, toujours dans la Méditerranée, du côté de l'Italie, le capitaine d'un navire commercial a été condamné en appel à un an de prison par la Cour de cassation italienne pour avoir débarqué en Libye sans en avoir informé le gouvernement italien une centaine de migrants qu'il venait de secourir en Méditerranée. La plus haute juridiction du pays a confirmé le jugement rendu en première instance et rappelle que renvoyer des migrants en Libye est illégal au regard du droit maritime international. Le 30 juillet 2018, le navire de ravitaillement Asso Ventotto avait porté assistance à 101 migrants, dont 5 mineurs et 5 femmes enceintes, en détresse près d'une plateforme pétrolière située dans les eaux internationales au large des côtes libyennes. Pour les associations, ce jugement définitif fera jurisprudence dans d'autres affaires similaires. Je cite le groupe Méditerranéa Saving Human, une ONG de sauvetage en mer. Maintenant, il existe un précédent judiciaire qui confirme ce que nous disons depuis des années. La Libye n'est pas un pays sûr. Hein, on le savait un petit peu. Mais tout ça est un peu hypocrite ou contradictoire quand on sait que depuis 2016, l'Italie, avec la collaboration de l'UE, finance et forme les gardes côtiers libyens afin d'intercepter les exilés en Méditerranée centrale en route vers l'Europe, et ce, malgré les nombreuses critiques de violation des droits sur les migrants dans le pays. Lorsqu'ils sont arrêtés en mer, les exilés sont envoyés en centre de détention où ils sont exposés à la violence, la torture, l'extorsion ou encore le travail forcé. L'an dernier, une mission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits humains en Libye confirmait que des crimes contre l'humanité avaient été perpétrés contre des migrants dans les prisons. On en a parlé souvent à l'émission. Depuis 2016, date du premier accord entre l'Italie et la Libye, plus de 130 000 personnes ont été interceptées en mer et renvoyées en Libye par les gardes côtes libyens. Donc, on interdit aux navires marchands de ramener des migrants en Libye, mais les bateaux de Frontex ou les bateaux de l'Italie peuvent favoriser les gardes libyens pour ramener des migrants de force en Libye.
Ça, donc, on leur remet, là, entre guillemets.
Ben oui, donc on les finance pour le faire. Donc c'était ma petite contribution autour de la Méditerranée. On va aller en musique avec une pièce qui va introduire le prochain sujet de Simon, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien, ce qui se passe à Gaza. Donc Ashka nous présente un poème dont je vous parle plus au retour, ça s'appelle « Il vous appartient de vivre ».
S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza
puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza.
Que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza.
Toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza.
Qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza.
De tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza.
À ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza.
De cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza.
De ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras, oh, dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant,
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre,
il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort devienne une histoire,
que ma mort devienne une histoire.
HK, il vous appartient de vivre avec un point d'exclamation. HK et les Saltimbanques, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un groupe qui a été créé en 2009 à Lille. Le leader Kado Radadi est auparavant avec le groupe de rap, le ministère des Affaires populaires, assez connu en France des années 2000. Le texte, c'est ça, l'intérêt aussi, est une traduction du dernier poème de Rifat Al-Harir, poète palestinien de Gaza, tué le 6 décembre dernier par un bombardement israélien dans sa maison à Gaza. Et c'est un poète assez connu, c'est son dernier poème qui parle justement, il vous appartient de vivre pour la suite des choses. Donc c'est assez émouvant, c'est une belle chanson, je vous recommande de la réécouter. Donc Simon, justement, tu nous parles d'actualité en lien avec c'est même pas un conflit, c'est un massacre, mais enfin, tout ce qui se passe autour au Proche-Orient.
Ben, je savais vraiment pas par où commencer, honnêtement. Ben, je vais commencer justement avec le Centre commémoratif de l'Holocauste à Côte-des-Neiges à Montréal, dont la mission est la promotion de la paix et la dénonciation des génocides, où s'est tenue mardi soir une conférence avec des soldats israéliens, dont un certain Abby Volkovitch, qui affirme que les enfants palestiniens visés par l'armée israélienne sont des terroristes.
Mm-hmm.
Mais bon, je vais plutôt commencer avec la question de l'aide humanitaire à Gaza. Premier élément, ben, tout le monde l'a vu, c'était assez spécial, le largage par les États-Unis avec des petits parachutes de 38 000 beaux repas. Belle mise en scène médiatique, vidéo bien léchée, mais 38 000 repas, c'est l'équivalent de 2-3 camions humanitaires, je crois. Les États-Unis reconnaissent eux-mêmes que ça en prendrait des centaines par jour. Donc 38 000 repas pour 2,2 millions d'affamés, dont des enfants qui meurent de plus en plus de malnutrition et non pas des bombardements. On s'entend que ça ne changera pas grand-chose. Toujours sur l'aide humanitaire, le deuxième élément marquant, c'est cette boucherie dans la ville de Gaza fin février, environ 115 morts et presque 800 blessés selon le Hamas. Les soldats israéliens se sont mis à tirer dans la foule qui se trouvait autour des camions de distribution. Les gouvernements américains et canadiens, toujours en bons alliés de Netanyahou, soufflent le chaud et le froid, attendent tranquillement les conclusions de l'enquête israélienne avant de se prononcer. Mais il y a de plus en plus de monde, l'ONU, l'UE et plusieurs autres États, même la France, qui demandent une enquête indépendante, puisque les affirmations de l'armée israélienne, comme quoi le nombre de morts et de blessés, ce serait en raison d'une bousculade, ben elles sont contredites par les médecins et les humanitaires à Gaza, qui ont plutôt constaté des centaines de personnes qui avaient effectivement été atteintes par balles. La situation économique, hein, on change de sujet, à Israël, elle est très mauvaise en raison du coût astronomique de la guerre, 600 millions d'euros par semaine, ou 6% du PIB israélien chaque semaine, ce qui est intenable et qui nous rapprochera peut-être d'un cessez-le-feu plus durable et qui participe aussi à la grogne de la population israélienne qui va en augmentant. Beaucoup de travailleurs temporaires dans le territoire israélien, dans le domaine de la construction, entre autres, où la moitié des chantiers ont été fermés, où on trouvait environ 190 000 travailleurs temporaires palestiniens, dont une bonne partie a été renvoyée ou est détenue. Ajouté à ça, des centaines de milliers de travailleurs israéliens qui ont été mobilisés pour faire la guerre. Alors, on veut faire venir 65 000 travailleurs étrangers de l'Inde, du Sri Lanka et de l'Ouzbékistan.
Ça n'a pas de bon sens.
Difficile à dire pour l'instant si le recrutement va bien se passer, mais avec les récentes morts de travailleurs étrangers, dont des Indiens et des Thaïlandais, dans le domaine de l'agriculture surtout, donc domaines qui sont plus exposés aux tirs de missiles, de roquettes, et sachant que les abris d'urgence sont généralement réservés aux seuls citoyens israéliens, donc il m'est avis que le vide va être difficile à combler en termes de travailleurs temporaires. Pour finir, en cette période critique, on peut heureusement, là je suis ironique, compter sur de précieux alliés. Il y a Pivot.Québec qui nous apprenait, je vous lis le titre de l'article, que 6 fonds de pension canadiens ont investi 1,6 milliard US dans des entreprises liées à l'apartheid israélien. En sous-titre, on nous indique que ces placements servent à la fabrication d'avions de combat et de blindés utilisés à Gaza. Le rapport de Labour for Palestine nous donne aussi des noms. Le régime de pension du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, 2 régimes de retraite ontariens, celui des employés municipaux et celui des enseignants, enseignantes. Et pour nos amis de la côte ouest, la Société de gestion des investissements de Colombie-Britannique. Un autre précieux allié dans la prospérité économique d'Israël, je termine avec ça, c'est la CAQ.
La CAQ!
Qui persiste dans l'ouverture de son bureau de la délégation commerciale du Québec en Israël, malgré les critiques et les pétitions. Martine Biron, notre bonne ministre provinciale du commerce international, a confirmé que la délégation est déjà fonctionnelle à partir de Montréal et qu'elle devrait bientôt aménager dans ses locaux à Tel Aviv. Malgré une courte période de doute quand les accusations de génocide ont commencé à se multiplier. Mais quel bon timing quand même! Bravo, champion à Québec! C'est déjà délicat, je dirais, en temps normal, le commerce avec Israël. Donc, encourager la production sur des territoires occupés malgré les campagnes de boycott. En plein massacre de Gaza, ça me semble encore plus insensible, incongru, déconnecté, imbécile. Mm-hmm. Donc voilà, elle est imbécile.
Martine Biron pourrait aller ouvrir un bureau à Gaza la semaine prochaine.
Elle pourrait y aller elle-même, je pense. Ce serait une bonne chose.
Oui, c'est ça.
Je vous recommande pour terminer pour vrai cette fois-ci un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains qui s'inquiète plus particulièrement de la situation des filles et des femmes à Gaza et en Cisjordanie.
Oui.
Rapport complet disponible en anglais en ligne. Le titre est « UN Experts Appalled by Reported Human Rights Violations Against Palestinian Women and Girls » sur le site du Haut Commissariat ohchr.org.
Super, Simon. Écoute, il y aurait plein de choses à dire. Et dans l'agenda, je pourrais compléter avec certaines annonces d'événements. Donc, on y voit quelques notes de musique. Et Marie-Ève vient me rejoindre en studio principal pour parler des actualités autochtones. Oui, on y va avec les enjeux autochtones. Je fais une petite nouvelle, puis après, je passe le micro à Marie-Ève. Les Anishinaabés de Kibawek et de Kitigan-Zibi peuvent compter sur l'appui de l'Assemblée des Premières Nations dans leur combat contre la construction d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires près de la rivière des Outaouais, en Ontario. La chef nationale de l'APN, Cindy Woodhouse-Nepinak, a demandé instamment que les Premières Nations concernées par l'installation du site sur leur territoire soient consultées. La décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire d'approuver le projet sur le site du laboratoire de Chalk River constitue un pas en arrière dans les progrès réalisés en vue de la réconciliation, a déclaré Mme Woodhouse-Nepinac. D'ailleurs, aussi des groupes non autochtones et des municipalités s'opposent à ce projet depuis quelques mois. Ça fait longtemps que c'est sur le feu. L'APN rappelle la responsabilité du fédéral quant à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'un des articles stipule qu'aucun stockage ou déchargement de matières dangereuses ne doit avoir lieu sur les territoires autochtones sans leur consentement préalable, libre et éclairé. Pour justifier leur opposition, les Anishinaabe ont soumis leur propre étude sur les risques et les impacts de construire un tel site à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais. Le document détaillait la présence d'une riche faune, ours, chevreuils, poissons, loups, entre autres, et d'une flore importante qui risquerait d'être mise à mal par le projet. La Première Nation de Kibawek a par exemple mené des études sur les ours, révélant que le site visé est une pépinière pour les oursons noirs. Les Anishinaabe ont aussi transmis un document qui détaille les répercussions sur la santé et l'environnement si le site se concrétisait. Le problème, c'est que la Commission canadienne de sûreté nucléaire a fait à peu près pas d'études. Il y a déjà, c'est déjà une usine de production de matériaux nucléaires. Fait qu'ils ont dit, on va faire le site d'enfouissement à côté, même si la rivière est juste à côté. Et c'est un peu tout croche. Fait que le fédéral répond pas, les ministres répondent pas, ni Guilbeault, ni Wilkinson. Et là, Benoît Charette va rencontrer les Anishinaabe. Je suis sûr que ça va être très, très efficace.
Un autre de nos meilleurs.
Oui, oui, il est bon. Donc, Marie-Ève, je te laisse aller avec je t'écoute attentivement avec tes actualités.
Ben oui, ben c'est une autre question un peu là, de consultation aussi. Là,
ben oui, on se concorde un peu. Hein? Oui,
à la mi-février, il y a eu lieu à Montréal les premières audiences d'un procès devant la Cour supérieure du Québec. Un procès qu'on pourrait qualifier d'historique pour les peuples autochtones du Québec. C'est les Anishinaabe aussi,
justement,
mais
ouais.
De Lac-Barrière.
Au Québec.
Cette fois-ci, installé là, à mi-chemin entre Val-d'Or et Mont-Laurier, qui veulent déclarer inconstitutionnel certains articles de la loi sur les mines du Québec. Essentiellement, c'est qu'ils jugent que ces articles-là contreviennent à l'obligation de consultation du gouvernement à l'égard des peuples autochtones pour l'octroi de droits miniers. Le cas particulier qui illustre ce problème est celui des claims transférés par une compagnie minière à Sochem. Sochem, c'est une entreprise minière attachée à Investissement Québec.
Ah ouais, rien de moins.
Ouais. Qui sont les claims qui sont au nombre de 1052 et valent 8 millions de dollars. Et donc, alors que la communauté de Barrière, de Lac-Barrière, dit avoir demandé de s'asseoir là à la table des négociations concernant le transfert de ces claims-là, ben le gouvernement du Québec ne l'aurait jamais consulté, ni lors de la négociation du règlement hors cours entre Cooper One et Copper One et Sochem, ni à aucun autre moment là en ce qui concerne l'inscription, le renouvellement ou le transfert des 10 claims portant sur le territoire qu'elle revendique. Pour comprendre l'importance de la cause, faut connaître un petit peu là, le fonctionnement de la loi sur les mines et le concept de consultation envers les peuples autochtones. Mais je l'explique le plus simplement possible. Vous allez voir, je vais éorer des pancrètes.
On va comprendre.
C'est que le régime minier du Québec donne le droit à n'importe qui de se réserver la priorité sur une partie du territoire. Ce titre-là peut ensuite être renouvelé indéfiniment et transféré. Il donne un droit exclusif à l'exploration minière. Et quand on consultation, ben le gouvernement du Québec donne de l'information sur les transferts et l'octroi, mais ne mène aucune consultation. Les communautés sont mises devant le fait accompli.
Ouais, ouais.
Par exemple, il y a eu un moratoire sur les activités minières qui a été mis en place à Lac-Barrière en 2011,
okay.
Mais il a été suspendu en 2016 sans que la communauté soit avisée.
Okay.
La communauté l'a appris seulement plusieurs mois plus tard. Et donc, entre janvier 2020 et janvier 2024, donc en 4 ans, le nombre de claims miniers a explosé dans le territoire des Anishinaabe, qui a augmenté de 75 points. Les droits ancestraux sur les territoires non cédés sont aussi au cœur de cette cause-là. Et l'affaire démontre que de s'engager dans la reconnaissance là, de ces droits-là, c'est une montagne difficile à franchir, c'est le moins qu'on puisse dire, pour une communauté pauvre comme Lac-Barrière. Donc, les Anishinaabe de Lac-Barrière font aussi d'autres demandes, c'est-à-dire que le Québec soit obligé de consulter et d'accommoder la communauté dès qu'une entreprise souhaite acheter un claim minier, que le Québec soit obligé d'aviser, de consulter et d'accommoder la communauté avant d'autoriser toute exploration minière dans la région, que les claims miniers détenus par Sochem demeurent suspendus jusqu'à ce que les deux parties se mettent d'accord. Ces derniers le sont depuis 2017 en lien avec le transfert là, entre Cooper One et SOCKEM, et que le Québec consulte et accommode la communauté avant tout enregistrement, renouvellement ou transfert de claims miniers.
Ben oui.
L'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, appuie les démarches de Lac-Barrière et selon un sondage d'opinion léger du mois d'août 2022 commandé par la coalition 2022, oui, c'est bien ça, par la coalition Québec Meilleure Mine, 78% des Québécois et Québécoises sont d'accord pour exiger le consentement des populations locales, municipalités et nations autochtones avant d'autoriser toute activité minière
ben oui,
sur c'est leur territoire.
Ça. Ben oui.
Donc, on va suivre avec beaucoup d'intérêt là, cette cause-là qui n'est pas terminée.
Elle est commencée, mais pas terminée.
Il y a eu les audiences, les témoins ont été entendus, les différentes parties ont été entendues, mais le juge ne s'est pas encore prononcé. Autre dossier, dans le nord de l'Ontario, celui-là, aussi en lien avec ce qu'on peut nommer le racisme environnemental.
Oui.
La Première Nation de Grassy Narrows attend toujours le centre de soins pour les personnes qui souffrent d'un empoisonnement au mercure.
Oui, oui.
Centre promis par le gouvernement Trudeau depuis 2017. Je fais un retour dans le temps.
Oui.
Dans les années 60-70, une usine chimique située en amont de la communauté a déversé environ 9 tonnes de mercure dans le réseau hydrographique des English Wabigoon, ce qui a eu des répercussions sur les membres des Premières Nations de Grassy Narrows et des Nations indépendantes Wabasimung. En 2020, les libéraux sont engagés à consacrer 19,5 millions de dollars à la conception et la construction de ce centre de soins-là. Un an plus tard, il a repromis 68,9 millions de dollars consacrés au fonctionnement et à l'entretien du centre cette fois-ci. Et là, ben depuis, le prix initial de la construction du centre a gonflé à 81,6 millions de dollars en raison principalement de la pandémie, selon le gouvernement. En juin 2023, la ministre des Services autochtones, Patty Hajdu, a déclaré qu'elle avait besoin d'une autorisation spéciale pour investir davantage dans le projet et qu'elle devait travailler avec le ministère des Finances et avec le Conseil du Trésor pour l'obtenir.
Aïe, aïe, aïe.
Et donc, en décembre dernier développement, si on peut dire,
ouais,
il y a eu une rencontre entre la ministre Hajdu et le chef de Grassy Narrows, Rudy Turtle, mais selon lui, ça n'a rien donné, je le cite, « Elle avait pas l'air de savoir ce qui se passait. Elle a affirmé qu'elle allait continuer à travailler sur ce dossier et qu'elle allait faire une présentation au premier ministre. » Donc, je rappelle que le mercure, quand même, hein, il persiste là, dans la chaîne alimentaire et il s'accumule en plus grande quantité au fur et à mesure que les animaux contaminés mangent d'autres organismes. Les poissons de la rivière, dont les habitants de Grassy Narrows dépendent pour leur alimentation, ont été contaminés. Et donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, un empoisonnement au mercure peut avoir des effets néfastes sur les systèmes nerveux, digestifs et immunitaires.
Mais il y a beaucoup de monde qui a des problèmes de santé à Grassy Narrows,
ouais,
de génération en génération.
Oui, ouais, exactement. Je termine avec une suggestion de
vas-y,
podcast réalisé par le CEDAL, le Comité pour les droits humains en Amérique latine. Un podcast qui a été réalisé en mémoire de Joyce Echaquan. C'est qu'au début du mois de septembre 2023, sur l'île Victoria, au Canada, des femmes autochtones du territoire Zanek ont organisé une rencontre internationale qui a réuni des femmes défenseurs des droits de différentes parties du monde. Ça a été l'occasion, entre autres, de tisser des liens là, et de réfléchir au rôle des femmes face au système extractiviste et de discuter de la biospiritualité, des risques liés à la protection de la nature et de l'attention particulière qui doit être accordée aux femmes défenseurs.
Oui.
Dans le podcast, on entend trois femmes. Loressa Lepine, qui est une femme bispirituelle autochtone, gardienne des connaissances ancestrales et défenseur du territoire Lekwanen à l'île Victoria en Colombie-Britannique.
L'île de Vancouver ou l'île Victoria?
L'île Victoria.
L'île Victoria, OK, c'est bon.
Il y a aussi Norma Sansir, qui est journaliste communautaire maya, Kakchikel au Guatemala.
Mm-hmm.
Il y a Anna Scheil, membre de l'Assemblée El Algarrobo, en lutte contre l'exploitation minière à Aldaguala, en Argentine. Ça s'intitule « Des femmes autochtones réunissent des défenseurs du monde entier au Canada ». Ça dure une douzaine de minutes, puis c'est disponible sur SoundCloud.
SoundCloud, et c'est produit par le CEDAL. Hein?
Le CEDAL, oui.
Oui, Comité des droits humains
en Amérique latine. Voilà.
De l'audio comme nous, donc c'est intéressant.
Oui.
Merci Marie-Ève pour cette revue de l'actualité autochtone. Parmi plein de sujets, évidemment.
Évidemment.
Évidemment. On va aller à quelques notes de musique et ensuite c'est l'agenda. Il y a plein d'informations à vous donner. C'est le mois de mars et il s'en passe des choses. 8 mars, c'est demain. Journée internationale des droits des femmes. Le groupe le plus actif à Montréal dans les manifs, c'est Femmes de diverses origines. Cette année, sous le cri de ralliement, les femmes résistent à la guerre, au colonialisme et au capitalisme. Une première activité demain, 8 mars, 17h30, rassemblement au Square de Chester, au centre-ville de Montréal. Et le lendemain, 9 mars, 14h, à l'Université de Montréal, au pavillon Jean-Briand. Elle présente « Teaching sur la résistance et la solidarité internationale des femmes, la Palestine et le mouvement anti-impérialiste ». Donc, ça, c'est pour le 8 mars, en fin de semaine. En fin de semaine, toujours, Marche nationale sur Ottawa, organisée par Turtle Island for Palestine. C'est une coalition de groupes. Ça se passe donc sur la colline du Parlement à 13h samedi. Il y a des bus de Montréal et de d'autres villes qui sont disponibles. Cherchez ça sur le web. Les trois revendications, ça va un peu... Ça va faire écho à ce que Simon disait, voilà. Un embargo sur les armes à destination d'Israël, des sanctions économiques et politiques contre Israël et le rétablissement immédiat du financement de l'UNRWA qui est en train de se concrétiser, ça a l'air.
Ça branle dans le manche.
L'UPOP présente plusieurs séries de cours, dont un sur les enjeux du conflit israélo-palestinien. C'est tous les prochains jeudis soirs. Ça commence ce soir avec l'histoire de la dépossession des Palestiniens. Ça se passe au Café des Oubliettes, dans Petite Patrie, si je me trompe pas. Et les suivants, le 14 mars, ça va être le droit international, les propositions de paix et la politique canadienne donnée par Rachad Antonius. Le 21 mars, l'opposition juive au sionisme avec Fabienne Présenté de Voix juive indépendante. Et le 28 mars, Zaya El-Masri présente « Quel avenir pour la Palestine ». Donc, c'est, je vous répète, c'est UPOP Montréal. C'est disponible éventuellement en ligne, mais il faut se pointer au Café des Oubliettes pour cette série parmi d'autres séries.
Premier, c'est par qui?
Le premier, c'est Rachad Antonius, qui est prof ici à l'UQAM, entre autres. Et sinon, dans le même sujet, foire aux questions sur l'embargo sur les armes à destination d'Israël. C'est un de mes groupes préférés, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, qui ont fait une foire aux questions. Donc, c'est sur leur site cjpme.com, embargo sur les armes à destination d'Israël. Sinon, le numéro de printemps 2024 de Relations est en kiosque et en librairie depuis le 4 mars. Son dossier s'intitule « Guerre-paix, perspective en clair-obscur », qui offre des clés pour comprendre divers aspects de la guerre, pour éclairer les conflits actuels et pour contribuer à nourrir une culture de la paix. Le lancement est le 14 mars, dès 18h, à la librairie sur Ontario, à Montréal. Joignez-vous à eux et venez changer sur les défis et les perspectives du mouvement anti-guerre québécois, avec entre autres Raymond Legault et Martine Éloi du collectif Échec à la guerre, ainsi que Carl Bouchard, professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal. Marie-Ève?
Petit complément, la revue Relations fait un tirage pour les personnes qui s'abonnent à la revue d'ici la fin du mois, d'ici le 24 mars. Vous courez la chance de gagner le livre « Le retrait » de Noam Chomsky et Vijay Prashad, publié chez Lux Éditeur, et qui parle justement des interventions américaines, entre autres, en Irak.
En Afghanistan et au Vietnam, je pense. Oui, tout à fait. Merci, Marie-Ève, pour l'information. Toujours dans les manifs, on est la semaine prochaine, 15 mars, Journée internationale contre la brutalité policière. À Montréal, c'est dès 17h au métro Baudry. Sinon, printemps migrant pour une régularisation complète dès maintenant. C'est une grande manifestation qui se passe à Montréal le 16 mars, mais dans plein de villes au Canada. C'est une mobilisation qui s'appelle Migrant Spring à travers le Canada avec différents groupes. À Montréal, c'est Solidarité sans frontières et le Centre des travailleurs, travailleuses et migrants. Donc, 16 mars à 13h au Métroparc. On dit fin à l'utilisation des migrants comme bouc émissaire, unis pour la dignité et la justice. Et une information dans le communiqué que j'avais pas vue. Le 17 juin, les programmes permettant aux aides familiaux migrants de demander la résidence permanente depuis le Canada vont expirer. Des milliers de femmes migrantes racialisées qui s'occupent d'enfants, de personnes malades et de
beaucoup
personnes âgées.
Des femmes des Philippines.
Ouais. Entre autres. Elles risquent donc d'être expulsées, de se retrouver sans papier parce que le programme, les gens n'ont plus le droit de demander, ça a l'air, la résidence permanente. Ça avait été une bataille, ça, à l'époque, pour avoir ça.
On va vous en parler peut-être. On va essayer d'avoir quelqu'un en entrevue.
Là-dessus, sujet intéressant. Et dans le communiqué, il dénonce notamment les attaques continues de la coalition Avenir Québec contre les migrants à des fins politiques. On en parle beaucoup là, ces temps-ci. Et je vais terminer avec un document qui s'appelle « Mes recours face au racisme ». C'est produit par le REPAC, qui est un regroupement d'organismes communautaires en défense collective des droits dans la région de Québec. REPAC.com, chercher « Mes recours face au racisme ». Je vous lis leur petite présentation. « Ce guide sert à outiller les personnes ayant subi du racisme ou de la discrimination » pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées quant à la défense de leurs droits. Trop souvent, certaines personnes travaillant en intervention communautaire au niveau scolaire, au niveau policier, censés aider les victimes, peuvent également participer au problème en ayant elles-mêmes des préjugés racistes. Avec ce guide, les personnes ayant vécu du racisme pourront avoir l'information nécessaire à leur disposition sans devoir subir d'autres discriminations et sauront vers quels organismes se tourner pour obtenir le soutien qu'elles désirent dans leur démarche. De plus, ce guide sert également à répondre aux besoins des groupes communautaires en général quant à l'accompagnement des victimes de racisme ou de discrimination. Donc, repac.org, un guide qui se télécharge en ligne. Il y a des copies papier qui existent. Je l'ai feuilleté vite, vite. C'est assez intéressant.
Belle initiative.
Ben oui, on les félicite. Donc, voilà pour l'agenda assez chargé. Si ça a été trop vite, réécoutez l'émission. C'est disponible dès demain matin, sûrement. Donc, on va y aller avec notre dernier marqueur de l'émission avant notre dernière toune. Et on vous fait un petit coucou dans quelques secondes. Donc, c'est l'intro de l'émission. Je voulais vous remercier mes collègues, Marie-Ève et Simon. Merci pour votre contribution avec plein de contenu.
Oui, merci, c'est le fun.
Oui, oui, merci, c'est super le fun. Ben oui, oui, oui. Et je vous rappelle les informations de base. Nous sommes diffusés aux deux semaines, les jeudis soirs, en direct, 18h30, sur les ondes, en ligne, sur choc.ca. Sinon, notre page d'émission pour toutes les balados sont disponibles, donc, sur notre page, sur le site Internet, le vrai site Internet de Choc. On a un site à nous, on a toutes nos émissions, d'autres informations, à apatridesanonymes.info. Un courriel pour nous envoyer des suggestions, des idées, des événements, c'est apatridesanonymes@resist.ca. Et on a une page, Marie-Ève, FB, où on met beaucoup d'articles européens ces temps-ci et beaucoup d'événements et d'analyses militantes, donc de ce qui se passe à Montréal, au Québec, au Canada, entre autres sur le conflit israélo-palestinien et sur la question des migrants. Et je vous rappelle que le mois de mars est très chargé. Allez consulter notre page FB. Pardon. Donc, peut-être vous dire aussi qu'on salue les gens de Radio Victoria dans l'Ouest canadien, qui nous écoute assidûment à chaque semaine, peut-être pas à chaque semaine parce que l'émission est jouée à toutes les deux fois, voyons, deux semaines en ligne. Donc voilà, je me perds. Donc notre prochaine émission est le 21 mars, jeudi 21 mars, et nous aurons plein d'informations, plein de nouveautés musicales à vous suggérer. On va terminer avec une toune dont vous avez entendu le début une couple de fois, Rid of Me. C'est un groupe de Philadelphie qui se décrit comme faisant du hardcore noise mélodique. Leur album s'appelle Access to the Lonely, est sorti en novembre dernier, c'est tout récent, c'est l'idée par une fille, une chanteuse. Et il se retrouve au palmarès international de Choc, donc depuis quelques semaines. Donc Rid of Me, la pièce Pavement. Bonne soirée et à la prochaine.
À dans deux semaines.
À la prochaine, salut.